Bonjour, je suis Violaine Varin, auteure, et je vais vous lire un extrait du recueil de nouvelles Un gecko dans la calebasse et autres histoires extraordinaires. Le soleil se lève sur la falaise de Bandiagara. Une fine brune plane au-dessus du plateau rocheux. Djaïli a depuis longtemps choisi une bande de sable. Il est rare en cet endroit. Il en a besoin pour travailler ses prédictions. Il est le devin du village. Ce matin encore, il est le premier levé. Depuis plusieurs jours, les relevés des pas du renard pâle le contrarient. Ils ne sont pas cohérents avec les premiers signes. Djinaba l'a engagé pour prédire le devenir de sa grossesse. Elle insiste pour connaître les pronostics. Il y a quelques mois, Djaïli avait tracé dans le sable différents signes. Il les avait placés dans des carrés. Lui seul sait les interpréter. Il avait dû attendre plusieurs nuits. Le renard pâle avait enfin daigné passer par là. Djaïli avait alors pu interpréter les traces laissé dans le sable. Djinaba attend des jumeaux. Les empreintes du renard pâle sont une nouvelle fois en partie effacées par d'autres traces. Il ne les reconnaît pas. Il soupire. Que dire à Djinaba? La naissance est proche. Il ne sait pas comment la rassurer. Il s'assoit un instant. Il essaye de se concentrer. Les empreintes du renard pâle sont nettes. Par-dessus, des traces d'un autre animal qu'il n'a pas l'habitude de voir sur le plateau. Un petit animal rampant. Il a d'abord pensé à un serpent. Mais la trace est plus large, irrégulière. Pour chacune des questions posées par les habitants du village, Djaïli a délimité le parterre de sable avec des pierres qu'il a ramassées sur le plateau rocheux. Cela dessine des rectangles de taille égale au sol. Au milieu de ce rectangle de pierre, il dessine chaque soir des lignes. Il place dans les carrés ainsi formés des tas de petites pierres blanches. Il plante ça et là de petits bâtonnets. Il les couche à certains endroits. Il traduit ainsi la question des villageois aux divinités. C'est le renard pâle qui prédit l'avenir. En traversant le rectangle de sable, il laisse l'empreinte de ses pattes. Au petit matin, Djaïli vient sur son terrain interpréter les signes qui lui ont été laissés. C'est la première fois qu'un autre animal efface à ce point les empreintes du renard pâle. Cela ne lui semble pas être un bon présage. Dans la case de Djinaba, les femmes de la concession se relaient à tour de rôle. Djinaba a perdu les os cette nuit. Le travail de l'accouchement a commencé. D'après ses calculs, la naissance aurait dû arriver pour Noël. Nous ne sommes que fin novembre. C'est au tour de Fanti, la troisième épouse, de lui masser le ventre. La pharmacienne du village a concocté une crème à base d'argile et d'herbe. Elle lui masse le ventre, le dos. Puis elle lui donne à boire une gorgée de l'eau dans la calebasse. C'est de la bière de mil. On la prépare habituellement pour les fêtes et les cérémonies. Elle a le double pouvoir d'enivrer par son alcool et de soulager la douleur. Elle lui apporte aussi les bienfaits de la bière pour la montée de lait. Djinaba est courageuse. C'est son troisième accouchement, le premier accouchement de jumeaux. Depuis plusieurs lunes déjà, elle s'inquiète. ses jumeaux ne bougent plus comme d'habitude. Jaili, le devin, n'a rien su lui dire ces derniers temps. Il est monté pourtant très régulièrement sur le plateau. Elle transpire. Elle halète de plus en plus vite. La délivrance ne devrait plus tarder. Jinama se met accroupie, comme elle l'a fait les précédentes fois, comme sa mère le lui a appris. Au sol, une natte de paille recouverte d'un linge de coton blanc. Elle pousse. La douleur lui déforme le visage. Fantis l'aide du mieux qu'elle peut. Elle lui parle. Elle lui masse les reins douloureux. Une première tête apparaît. Jinama pousse encore. Puis, tout le corps du nouveau-né s'échappe de l'utérus maternel. Fantis le recueille. Elle le tient par les pieds. Elle veille à ce qu'il ne lui échappe pas. C'est une fille. Elle est robuste. Elle pousse un cri vigoureux. Elle est en bonne santé. Son poids est honorable pour une jumelle née avec un mois d'avance. Le second enfant ne se présente pas tout de suite. Les contractions se sont calmées. Jinama, épuisée, s'allonge un instant. Le dos lourd lui monte à la tête. Elle est trempée de sueur. Pourtant, c'est fin novembre, la période la plus fraîche. Le soleil est en train de se coucher. Quelques minutes plus tard, le travail reprend. Jinama se place à nouveau accroupie. Elle se remet à sa tâche. Elle pousse à nouveau. Aïcha, la deuxième épouse, est venue en renfort pour s'occuper du nouveau-né. La deuxième tête apparaît. Elle est bien plus petite. Le corps du nouveau-né s'échappe comme un petit sac mou, inerte. C'est une seconde fille. Elle est toute bleue, des pieds à la tête. Même les quelques cheveux crépus et souples qu'elle a sur le crâne sont bleus. Elle est mort-née. Jinama pousse un long hurlement de désespoir. Dans le village, ceux qui entendent ce cri lugubre sont parcourus de frissons. Ils arrêtent un instant leurs activités. Dans la case, Jinama s'est allongée. La petite fille tête goulûment le sein de sa mère. La natte et le tissu de coton blanc sont tachés de sang. Fantis et Aïcha nettoient autour d'elle. Le moribond a été enveloppé dans un tissu. Il est mis de côté. La calebasse de Dolo est vide depuis un moment. Un gecko, qui s'était réfugié à la tombée de la nuit dans la case, s'y est installé. Quand Fantis s'en aperçoit, elle est furieuse et le chasse avec un balai de paille.